14h29, eh bien, il y a un asile, un ancien hôpital pour personnes atteintes de maladies psychiatriques qui est à vendre. Ça se passe à Sainte-Clotilde-de-Horton, c'est près de Victoriaville, et qui est un bâtiment qui est littéralement abandonné, si on veut, et dans lequel il y a eu des décès, malheureusement, qui sont survenus il y a une trentaine d'années. Et le propriétaire de cet immeuble-là, qui s'appelle Roger Thivierge, a décidé de s'en départir pour la somme de 2,8 millions. Et on dit de cet immeuble qu'il serait un des plus hantés au Québec par des fantômes. Moi, il y a des gens qui m'ont dit que c'est un endroit qui est extrêmement couru par les jeunes, entre autres choses, là, autour de 18-20 ans, qui se rendent sur place pour aller visiter ça. Il y aurait même une espèce de prix à payer. Là. Il y a une espèce de gardien, pseudo-gardien, qui prend de l'argent pour qu'on puisse entrer à l'intérieur et aller visiter tout ça. En tout cas, c'est un phénomène assez spécial. Et vous savez, quand on parle de phénomènes spéciaux, ben on va tout le temps voir Christian Page, qui est au bout du fil. Bonjour, Christian.
Salut, Louis.
Tu connais bien, toi, cet immeuble-là, hein?
Oui, j'y suis allé à plusieurs reprises. J'y ai même fait des tournages pour des séries documentaires à la télévision. Donc, ce que tu as dit, là, c'est ça résume bien l'affaire. Oui, c'est un grand bâtiment. Là, uniquement pour l'histoire, il a été construit à la fin des années 30. Il était, au départ, c'était un édifice d'obédience chrétienne. Il a été, pendant un moment, une espèce de collège pour garçons.
Ouais.
Et puis, à la fin des années 60, le gouvernement du Québec l'a acheté. On a fait, comme tu l'as mentionné, d'abord, c'était un centre de soins pour les gens souffrant de problèmes mentaux. Et puis ensuite, c'est devenu un centre d'accueil de longue durée pour également les gens souffrant de troubles de comportement mentaux psychiatriques. Et c'est les histoires de fantômes, en fait, sont associées à deux événements, dont l'un, c'est assez un peu amusant, parce que dont l'un est une légende urbaine. Hein, on raconte que deux incendies se seraient produits dans l'asile,
ouais,
qui auraient fait des victimes. Un premier à la fin des années 50, on parle, selon les sites de chasseurs de fantômes que tu vérifies, c'est ou 1957 ou 1958, trois adolescents se seraient enfermés dans une garde-robe pour fumer, et ils auraient mis le feu à de la literie et seraient décédés par asphyxie. Cet événement-là n'a jamais eu lieu. J'ai vérifié avec...
Ah oui, c'est pas vrai, ça-là.
Ça s'est jamais produit.
Okay.
En revanche, tu l'as mentionné, on est en janvier 1988. L'édifice accueille à ce moment-là là, une quarantaine de patients. 13 logent dans l'étage à l'étage le plus élevé. Et c'est là que va se produire un incendie. Sur les 13 personnes qui sont là, 9 d'entre elles vont décéder par asphyxie. Et à partir de là, l'édifice va être un peu abandonné. C'est-à-dire qu'il ne reprendra pas cette vocation d'asile. Il va être laissé un peu à l'abandon. Des gens vont essayer de le transformer pour en faire un centre de jeunesse. Mais éventuellement, en 2002, tous les travaux, toutes les tentatives sont abandonnées.
Ouais.
Et depuis, on peut dire pratiquement depuis 1988, le bâtiment est à l'abandon. Et tu le mentionnes, oui, c'est devenu un incontournable pour les groupes de chasseurs de fantômes au Québec. Ils sont plus de 200 et ces gens-là se donnaient rendez-vous à l'asile. En fait, ça faisait partie de l'agenda. Il faut passer par l'asile de Sainte-Clotilde.
Okay.
Malheureusement, l'an dernier, parce que c'est vrai, au départ, le propriétaire, M. Thivierge, lorsqu'il a acheté la propriété, il a été un peu surpris de voir un peu cette exploration urbaine avec une valeur ajoutée qui se faisait dans l'édifice.
Et puis il était un peu clandestine, Christian, hein?
Oui, absolument. Il a essayé au départ de contrôler ce flot. Il n'y est pas parvenu. Alors, ce qu'il a fait, il a mis, comme tu l'as mentionné, un gardien qui chargeait de quelques dollars pour permettre aux jeunes d'aller visiter les lieux. Bon, évidemment, tout le monde se donnait une bonne frousse.
Oui.
Ah, la question qu'on se pose, est-il réellement hanté?
Ben, c'est ça, la grande question.
D'expérience. La question, là, on ne débattra pas, oui, mais, ou non, ou doit-on croire aux fantômes?
Ouais, mais attends un peu. Christian, juste avant, toi, tu es allé à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans? Y a-t-il quelque chose à voir, première des choses?
Au départ, les premières fois où j'y suis allé, il restait encore beaucoup de meubles. Hein? Et avec le temps, M. Thivierge a nettoyé l'endroit. L'endroit a été utilisé notamment pour faire un peu de la guérilla, là, tu sais, genre paintball.
Okay.
Donc, un site d'activité pour ça. Et évidemment, les amateurs de fantômes s'y donnaient rendez-vous. À la toute fin, je dirais au cours des deux ou trois dernières années, le bâtiment était à peu près vide. Mais au début, moi, les premières années où j'y suis allé, il y avait encore beaucoup de meubles, beaucoup d'objets à l'intérieur.
Ouais.
Il faut savoir, et c'est là la grande question des fantômes, il faut savoir que l'édifice est pratiquement infesté de vermine, de rats, de chauves-souris, d'oiseaux. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Hein?
Ouais.
À un moment donné, moi, il y a quelques années, alors qu'il y avait encore des objets, j'ai déplacé, il y avait plusieurs matelas empilés dans une pièce, et quand j'ai tiré là-dessus, Louis, il y a des rats qui sont sortis gros comme des chats qui se sont enfuis dans les murs. Alors, tu t'imagines, les murs sont remplis de rats, sont remplis de vermine. Il n'y a plus de faux plafonds. Donc, il y a des colonies d'oiseaux et de chauves-souris qui nichent à l'intérieur de l'édifice. C'est un très grand édifice abandonné, il faut le savoir. Alors, si tu vas là, la nuit, avec les attentes qu'il y a peut-être des fantômes, que tu retiens ton souffle,
ben oui.
Il est possible que t'entendes un craquement, un chuintement, un mouvement derrière le mur. Mais sont-ce les fantômes?
Ah ben là, non, j'ai l'impression que on parle plus du gros rat de tout à l'heure. Hein?
Ben oui, écoute, c'est pour ça que ça m'a toujours amusé, parce que les gens vont là la nuit. Il y a un scientifique britannique qui a dit à un moment donné, c'est la meilleure, le critère premier pour une maison hantée,
ouais.
Il faut qu'elle ait la réputation d'être hantée. C'est vrai, si tu amènes des gens dans un lieu qui n'a pas la réputation d'être hanté, mais tu leur dis qu'il est hanté, après quelques heures, près de 50% d'entre eux vont décrire des phénomènes subjectifs.
Vont entendre des choses, vont voir des choses.
T'as tout compris. J'ai eu l'impression j'ai eu un sentiment d'oppression. Il me semble qu'on me soufflait dans le cou. Tu vois un peu, Jean. Or, si tu vas la nuit dans un grand édifice comme celui-là, avec les attentes qu'il y a peut-être des fantômes, en sachant qu'il y a toutes sortes de vermines, de rongeurs dans les murs, il est bien possible qu'avec un peu d'imagination, t'entendes ce que tu veux bien entendre.
OK. Alors, bref, ça vaut plus rien, ce bâtisse-là. Je veux dire, de la façon dont tu l'as décrit, on peut plus rien faire avec ça. Là. C'est ouais, au-delà de la réparation, de la rénovation. Là.
Absolument, absolument. Moi, je te dirais qu'en dehors de la structure même de l'édifice, les murs extérieurs qui sont en pierre, en béton, l'intérieur, écoute, les cloisons, à l'intérieur, il y a des cloisons qui sont complètement effondrées. Là, au sous-sol, ouais. Là, il y a les murs se sont littéralement écroulés. L'endroit était devenu très dangereux. Moi, je me rappelle la dernière fois où j'y suis allé, un puits d'ascenseur n'était pas protégé. Donc, tu t'imagines quelqu'un au quatrième qui, dans l'obscurité, met le pied là-dedans, ben il fait une chute de 3 étages. On comprend pourquoi la ville, l'an dernier,
ouais.
A exigé que l'endroit soit complètement barricadé et interdit de toute forme de visite. Et je le comprends, c'était devenu excessivement dangereux.
OK, donc, d'abord, il n'y a rien à voir.
Et je pense qu'il n'y a rien à voir, et tu le mentionnes, ne serait-ce que sur le plan de l'architecture ou sur le plan, là, disons, de l'édifice, de l'immobilier. C'est, à mon avis, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est à peu près au-delà de toute récupération.
Okay,
c'est un grand édifice,
ouais.
Et je vois mal comment on pourrait le restaurer compte tenu des dommages qu'il a subis au cours des années.
Parce que ce qu'on m'a raconté, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, entre autres, qui... c'est comme une espèce de passage obligé. Là, tout le monde qui est un peu sur le party dit, ben, on s'en va à Sainte-Clotilde de Horton, puis on va voir les fantômes, et puis ça entre à l'intérieur la nuit. Là, peut-être moins maintenant, parce que tu dis que ça a été barricadé, mais
oui.
Pendant longtemps, ça a été le cas où les jeunes allaient juste se donner une bonne frayeur, finalement, dans un immeuble réputé hanté. Là.
Absolument. Ouais. Et là, les gens revenaient, les jeunes, avec des magnétophones, toutes sortes de trucs qui allaient là. Et puis là, on revenait et on s'empressait de mettre sur YouTube nos photographies, nos petits bouts de films, les soi-disant enregistrements audio de voix fantômes qu'on aurait entendues.
Ouais.
Et là, on se précipitait pour mettre ça sur YouTube. C'était, tu le mentionnes bien, un détour obligé pour tous les groupes de chasseurs de fantômes au Québec. C'était sur l'agenda. Si tu veux être reconnu par les autres groupes du même genre, il fallait que tu aies passé une nuit dans l'asile hanté de Sainte-Clotilde.
Merci, Christian Page.
Ça me fait plaisir, Louis. Bonne
salut,
fin de journée.
Au revoir. Alors donc, avis aux intéressés, 2,8 millions, il n'y a pas juste le bâtiment, là, mais pour un asile réputé hanté.